Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques, Denis Knopfler.
Oui, mesdames et messieurs, dans l'histoire d'Athènes hellénistique, peu d'événements ont été plus importants, sans doute, que le soulèvement de la cité contre la tutelle du roi Démétrios Poliorcète. Après une demi-douzaine d'années de pesante domination et de mise en veilleuse de la démocratie. Mais avant d'en venir à cet événement aujourd'hui datable avec certitude de l'année 287, grâce à l'apport d'un document épigraphique majeur, le désormais fameux décret de Callias, publié en 1978, vous avez le haut de la stèle sous les yeux, il nous faut revenir encore sur la décennie antérieure à cette révolte, puisque lors de notre précédente leçon, déjà un peu lointaine au surplus, nous avions mis en évidence la complexité des problèmes chronologiques posés par l'épisode politique de plus ou moins longue durée que l'on désigne sous le nom de tyrannie de Lacarès. Or, ce faisant, nous n'avions pas pu aboutir encore à une solution satisfaisante, je ne dis pas la solution, il serait naïf de prétendre y parvenir dans l'état actuel des choses, en fournissant au moins des raisons dignes de considération pour adopter un cadre temporel qui tout à la fois respecte au plus près les rares données disponibles et offre aussi, c'est important, une certaine cohérence au point de vue de l'histoire politique et institutionnelle. On a vu en effet que deux systèmes s'affrontaient depuis un siècle, qui diffèrent l'un et l'autre tant par les dates assignées au début et à la fin de cet intermède tyrannique, que surtout peut-être par la durée de la tyrannie, et donc par la force des choses, de sa nature. Selon l'opinion de l'Italien Gaetano de Sanctis et des plus récents adeptes de sa chronologie, ce qu'on appelle le coup d'État de Lacarès, en effet, aurait eu lieu seulement au printemps 295, exactement au mois d'avril, ou à peu près, la Fébolione, de l'Archonta de Nikias, qui est daté de, justement de 296-295. Et la tyrannie dura ainsi une année à peine, jusqu'à la capitulation de la ville devant le roi Démétrios vers la fin de l'hiver suivant 294. Pour l'Américain Ferguson, en revanche, reprenant la question une vingtaine d'années après son livre de référence paru en 1911, la tyrannie se serait installée dès l'année 300, se prolongeant ensuite pendant 5 ans jusqu'à ce mois, elle a fait Bolion de 295, qui, d'après lui, est les tenants de son système, les tenants actuels de son système, correspondrait donc non pas au début de la tyrannie, mais tout au contraire à sa fin, c'est-à-dire au rétablissement de la démocratie, ou du moins à un renouvellement du conseil, sinon des magistrats voulus par le roi Démétrios au terme du siège dramatique qu'il fit subir aux Athéniens durant l'hiver précédent, donc 295 dans cette chronologie. En 1979, on put penser, et je crois me souvenir que je fus d'emblée du nombre de ceux qui le pensèrent, que l'affaire était définitivement réglée en faveur du système de De Sanctis, puisqu'il était repris et défendu avec de très solides arguments par l'historien allemand de Princeton, Christian Habicht, dans une étude préliminaire qui a fait date, c'est Untersuchungen zur Geschichte Athens, et c'est d'ailleurs la même chronologie qu'il adoptait en 1985, encore dans son bel essai sur le périégète Pausanias, réédité avec cette chronologie toujours en deuxième édition en 1998. Mais voilà que, dans l'intervalle, en rédigeant sa synthèse historique de 1995, publié 5 ans plus tard en français. Le même savant tourne Kazakh, de manière presque subreptice, peut-on dire, se range du côté de Ferguson et défend l'idée d'une tyrannie longue s'étendant sur plus d'un lustre, de 300 à 295, chronologie à laquelle il paraît être resté attaché depuis lors, faute de mieux peut-être, et en étant bien obligé de constater que sa position ne faisait plus l'unanimité des spécialistes. Comment expliquer ce revirement de la part d'un connaisseur aussi avisé, scrupuleux, des choses athéniennes? Il ne découle pas de l'apparition d'une inscription jusque-là inconnue et dont l'apport serait décisif, mais d'une nouvelle manière de considérer un document papyrologique apparu, en fait, dès la fin du XIXe siècle, à savoir une notice concernant Ménandre, le poète dramatique, comique, bien connu, dont la production s'étend, on le sait par ailleurs, sur près de 30 ans, de 320 à 291, date de sa mort. Selon ce texte que vous avez sous les yeux, transmis donc par un papyrus d'Oxyrhynchos, tout comme la fameuse chronique que l'on avait un peu commentée lors de la dernière séance, notre Ménandre, ayant rédigé une comédie intitulée « Les gens d'Imbros »,« Imbrioi », sous l'archontat de Nicoclès, « Epinicocleus », soit, la chose est sûre, pour ce qui est de la date de cet archonte, 301-0, donc au lendemain même du grand tournant historique qu'a été la fameuse bataille d'Ipsos, qui a marqué la déconfiture des Antigonides, l'automne 301, le poète, donc, disais-je, n'aurait pas pu faire représenter cette pièce qu'il avait donnée à monter, Doken Eisergazian, pour les Dionysies, les grands Dionysies, à cause du tyran Lacarès, dia Lacaren ton turanon, le mot à peu près conservé. Dans son livre de 1979, Habicht n'ignorait évidemment pas ce témoignage remarquable, mais comme plusieurs de ses devanciers, il adoptait la correction proposée bien auparavant par l'illustre philologue allemand Wilamowitz du nom Nicocleus en Nikiou, ce qui permettait de rattacher cet épisode singulier de la carrière de Ménandre et de l'histoire d'Athènes au chambardement politique survenu, la chose est sûre, quelle que soit l'interprétation à donner, au printemps 295. Donc, on remplace, en considérant que Nicocleus est une erreur, par Nikiou, et le tour est joué, puisque ça donne la date de 96-15, et la suppression des Dionysias s'explique par les événements de ce printemps-là, quelle que soit leur interprétation. Donc, si la grande fête des Dionysies avait été supprimée, cela s'expliquerait, ça pourrait s'expliquer au mieux, par référence à ce fameux coup d'État de Lacarès et une situation très, très troublée qui l'accompagne. Malgré son caractère très séduisant, Habicht a eu certainement raison, me semble-t-il, de renoncer à cette correction textuelle qui est, à tout prendre, passablement arbitraire. Cette substitution de Nicocleus à Nikiou ne pouvant guère s'expliquer paléographiquement. Mais faut-il pour autant faire remonter si haut la prise du pouvoir de Lacarès? C'est là tout le problème, et pour ma part, j'en doute fort. On notera d'abord que si ce personnage a fort bien pu, je parle de Lacarès, a fort bien pu intervenir sur la scène politique dès l'année 300, aussitôt après la défaite des Antigonides, en bénéficiant du soutien intéressé du roi Cassandre de Macédoine, comme le suggèrent les sources littéraires que nous avons vues, rien n'indique qu'il ait été d'emblée tenu pour un tyran. Car la notice papyrologique que l'on a là sous les yeux ne saurait prouver cela. Elle qui n'a évidemment été rédigée que beaucoup plus tard, peut-être seulement à l'époque impériale, quand la caresse, évidemment, était entrée dans l'histoire avec cette appellation infamante de tyran. Pendant plusieurs années, la caresse avait pu jouer un rôle important, certes, dans le collège des stratégoi, sans être le moins du monde tyran, l'a-t-il d'ailleurs jamais été officiellement. Par exemple, en faisant voter, grâce à son ascendant, la création de magistratures nouvelles, comme celle de l'exetastes, une espèce de vérificateur, je reviendrai là, des comptes d'actualité, et les trituarchoi, ce sont deux magistratures qui, remarquablement, n'apparaissent pas avant 300 et disparaissent absolument en 294. Donc, il y a là l'écho très, très sûr d'une réforme. On se souvient du reste que la caresse était encore en train d'aspirer à un pouvoir autoritaire. Il était épithéménos tyrannein, selon les termes de Plutarque, quand le roi Démétrios chercha à profiter de la dissension civile, notamment dans le collège des stratèges, pour attaquer la ville. Or, cette entreprise date au plus tôt de 297, date de la mort du roi Cassandre, cette mort qui privait Athènes d'un soutien et d'un allié de taille. Si donc Ménandre, en 300 déjà, je reviens à ce texte, si en 300 déjà, fut empêché de produire sa comédie des Imbrioi aux grandes Dionysies, ce n'est pas nécessairement parce que la célébration de la fête aurait été supprimée cette année-là, événement très grave, huc egeneto, mais quel est le sujet de huc egeneto? Tout le problème est là. C'est peut-être tout simplement la représentation de la pièce de Ménandre qui ne put avoir lieu. Le contenu politique de cette comédie, car la comédie nouvelle a aussi, quoi qu'on dise, un contenu politique plus allusif que l'ancienne, le contenu politique de cette comédie a pu justifier à lui seul une interdiction, ou disons mieux, une menace dirigée contre l'auteur. Car cette pièce mettait en scène deux pauvres diables, nous dit le résumé ici, du Openetes à Lélone, qui habitaient cette île de Dimbros, ici, à l'entrée de l'Hellespont. Or, cette île était l'une des plus importantes clérouquies ou colonies athéniennes avec Lemnos et Skyros. Or, justement, le statut de ces îles posait un grave problème depuis le tournant de 301. Il se peut dès lors que Ménandre ait laissé transparaître une opinion sur la possession et le sort des Imbrioi qui ne faisait pas l'unanimité dans la classe politique. Pour ma part, donc, je confesse avoir beaucoup de peine à faire remonter si haut le coup d'État ou la prise de pouvoir par la caresse, avec tout ce que cela impliquerait pour l'histoire de la cité pendant les 5 années suivantes. 5 années de tyrannie, ce serait inouï dans l'histoire d'Athènes. On s'étonnerait d'ailleurs de n'avoir aucun écho de cette tyrannie dans la fameuse chronique de Paros. Je sais bien qu'elle est mutilée vers les années, justement, 301 à 297, mais enfin, il n'y a en tout cas nulle trace visible, malgré la mention de Cassandre. D'autre part, quelques-uns des arguments qui appuyaient cette datation haute paraissent aujourd'hui caduques ou du moins ébranlés. On l'admet couramment, en effet, que le coup d'État de la caresse aurait été directement provoqué par une grave disette et qu'il aurait été réalisé au lendemain d'une expédition malheureuse. Ces deux événements paraissant devoir être l'un et l'autre placés en l'an 300. C'est en tout cas le point de vue que défend le jeune historien allemand Boris Dreyer dans ses Untersuchungen, paru en 1999. Étude intéressante, quoique d'une lecture assez malaisée, il faut bien le dire. Selon lui, il le montre dans un tableau que je ne reproduis pas, c'est la famine à Athènes, hunger in Athènes, qui précède directement la révolte, la stasis, disons, la révolution née du conflit entre les stratèges Lacarès d'un côté et Carias au sein de ce collège. On croyait pouvoir induire cela du récit des événements donnés par la très précieuse chronique de Xirincus, cette chronique qu'on peut attribuer à l'érudit Phlégon de Thrales. Mais il y a peu, très peu de temps, je crois en 2003, oui, vous le voyez, le papyrologue et historien Peter Tonneman a montré que ce texte avait été en réalité lu de manière incorrecte sur deux points cruciaux, car c'est à tort qu'on avait cru déchiffrer, après la mention de la prise de l'Acropole, prise violente par un des stratèges, Carias, metaten stratian, en réalité, d'après Tonneman, on ne lit pas ça, et il est simplement question ici, après stratian, il faut lire stratiotone. Je n'ai pas vu moi-même le papyrus, mais on peut lui faire confiance. Donc, quelque chose de plus banal, il n'y a pas eu une expédition, mais c'est simplement avec ses troupes qu'il prend l'Acropole. Et puis, d'autre part, ce qui fut fatal à la popularité de ce stratège Carias, adversaire de Lacarès, ce ne fut pas de se montrer incapable de nourrir le peuple à cause d'une prétendue famine, ou des epoiesen ton démon très feignes, une phrase d'ailleurs bien bizarrement construite qu'il fallait comprendre comme on pouvait, mais c'était, comme le montre justement Tonneman, ici il faut remplacer la négation ou des, il faut la remplacer par le relatif ous, qui reprend soldat. Donc, en fait, il a obligé des soldats qu'il a obligés à faire nourrir par le peuple, ou obligé le peuple à nourrir ses soldats, ce qui est fort différent. Donc, plus question véritablement de famine dans cette affaire. Or, justement, donc, on faisait commencer la tyrannie de Lacarès en 300 en croyant pouvoir mettre cet événement en rapport. Abiche le dit dans sa seconde version, mais surtout Dreyer et d'autres, avec les difficultés de ravitaillement qui semblent bien impliquer l'effort fait par Athènes l'année suivante pour garantir son approvisionnement en blé, comme en témoignent divers documents que je ne reprends pas ici. Donc, vous le voyez, les raisons que l'on avait de dater de 300 déjà l'amorce de la tyrannie de Lacarès paraissent ainsi s'évanouir l'une après l'autre. Tout bien pesé. Il paraît donc préférable de s'en tenir à la date de 295 pour ce qu'on appellera, faute de mieux, le coup d'État, mais on n'en sait rien de ce coup d'État en réalité, prise de pouvoir de Lacarès en revenant à la première position de Abiche. Cela ne signifie pas, bien entendu, que l'orage ait éclaté en 295 dans un ciel sans nuages. La tension devait être vive depuis la proclamation par Athènes, après Ipsos, vous le souvenez, de la neutralité de la cité vis-à-vis des rois, car aux partisans d'un accommodement jugé indispensable avec le roi de Macédoine Cassandre, s'opposaient les tenants d'un retour sous l'égide de Démétrios, considéré comme un moindre mal. À cet égard, la mort du roi de Macédoine en 297, marqua certainement un tournant, affaiblissant la position de l'ami de Cassandre, qui était justement Lacarès, qui dut se poser alors tout naturellement en champion de l'indépendance face à la pression toujours plus grande de Démétrios sur Athènes. De fait, quand surgit la dissension, la stasis, au sein du collège des stratèges, la chronique d'Oxyrhynchus, que vous avez encore sous les yeux, nous dit clairement que nous sommes en situation de guerre, ento polemo. Il y a une guerre extérieure qui, comme souvent, agit sur la politique interne. Cette guerre a commencé dès 296, avec la première attaque attestée de Démétrios contre l'Attique. Elle se poursuit l'année suivante, se double rapidement d'une guerre civile, dans la mesure où le Pirée, dans des circonstances hélas très peu claires, fit sécession avant ou après la prise du pouvoir par la Charès. Il y eut un combat, au dire de Pausanias, où des Athéniens périrent, et furent plus tard honorés, justement, pour avoir combattu le tyran ou candidat à la tyrannie, la Charès. C'est dans cette atmosphère survoltée de l'année 295, pas en 300, année calme, relativement calme, en tout cas, selon toute apparence, que s'explique le mieux, me semble-t-il, la condamnation à mort, en bloc, on se souvient, Mia Psepho, de quatre des dix stratèges, dont Carias, justement, l'adversaire déclaré de la Charès, au terme d'un procès expéditif, bâclé, entaché d'illégalité. Cela entraîna la tenue d'élections anticipées, pourrait-on dire, ou en tout cas la désignation d'un nouveau conseil, fort de 600 membres, le conseil d'Athènes depuis la réforme des tribus de 307, situation tout à fait inédite, ça c'est certain, dont on a l'écho très probable, on l'a vu, dans l'apparition d'un archonte désigné comme Nikiou, Epinikiou Usterou au printemps 295. Point de départ d'une année civile tronquée qui ne compta que 104 ou 105 jours, répartis en 12 prytanies de 9 ou 10 jours au lieu des 360 jours d'une année ordinaire. Donc il y a eu là un événement à coup sûr singulier. Cette rupture si extraordinaire n'est pas à mettre nécessairement en relation avec un coup d'État, puisque la Charès était finalement au pouvoir depuis 297 au moins, un pouvoir collégial. Mais il y a tout le moins, on peut dire, une épuration politique, due très vraisemblablement à la pression croissante de Démétrios sur Athènes. Désormais, Démétrios est en Attique. Il est aux portes d'Athènes. Car je reste personnellement convaincu, et jusqu'à preuve du contraire, que c'est seulement, au tout premier printemps 294 que se place la fin du siège, siège qui dure tout l'hiver, entraînant une grave famine. Et la prise de la ville, alors, provoque la chute et la fuite. Les deux choses sont associées clairement par nos sources de la Charès. Telle était encore une fois la position de Habich de lui-même dans son étude si convaincante, à mes yeux, dans l'ensemble, de 1979. Et l'auteur faisait valoir, à l'appui de cette interprétation, un argument qui me paraît, comme à d'autres aussi, avoir gardé toute sa valeur, c'est le contenu du décret pour Hérodoros, décret connu depuis longtemps, qui est très probablement daté d'avril 294, ce Hérodoros, un des principaux courtisans de Démétrios. Car on a vu que si cet étranger, peut-être de Lampsac, enfin de la région de l'Hellespont apparemment, reçoit les plus grands honneurs, honneurs exceptionnels, c'est pour avoir aidé les Athéniens au moment de la très délicate circonstance que fut pour eux la capitulation et surtout la négociation d'un traité d'alliance, c'est-à-dire en fait traité de capitulation avec le roi Démétrios. Et on l'honore à Athènes sur la base du rapport fait par les ambassadeurs à leur retour. C'est très clairement indiqué dans l'encadré de droite. Donc si la prise d'Athènes avait eu lieu une année plus tôt, dès le printemps 285, comme le voudrait Habich dans sa seconde version, seconde synthèse, on comprendrait assez mal que l'octroi de ces honneurs exceptionnels ait été différé pendant toute une année, alors qu'ils étaient visiblement motivés par le soulagement d'une paix obtenue à des conditions relativement favorable. Cette datation base de la prise d'Athènes, donc 294 et non pas 295, me semble avoir un autre avantage, c'est qu'elle rend mieux compte d'un épisode qui fut la conséquence de la nouvelle mainmise antigonide sur la cité. Olympiodore, un Athénien dont parle Pausanias dans le texte que qui vous a été distribué, 1, 25 et, 20 et 26, dont on a ici un portrait qui est une copie du musée d'Oslo. L'identification est assurée par une inscription d'époque impériale. C'est un Alempteodor qui s'était illustré donc, en divers épisodes militaires depuis la fin du IVe siècle, en tant qu'adversaire du roi Cassandre et donc aussi de la Charès, d'où justement sa promotion après la chute du tyran. Olympiodore, disais-je, fut désigné comme archonte éponyme. Il ne s'agissait certainement pas d'une élection par tirage au sort, selon l'usage pour cette magistrature, mais évidemment d'un choix délibéré du roi. Olympiodore apparaît effectivement comme archonte dans la fameuse liste que nous avons grâce à Denis d'Halicarnasse, dans la place qui convient, 294-293. Et la preuve qu'il a été élu, selon toutes les désigné contrairement à toutes les règles légales, c'est qu'il se vit prorogé pour une seconde année. D'où, ici, dans cette liste littéraire, l'insertion d'un nouveau nom, Olympiodoros, car il a été archonte pendant 2 ans. Ce qui laisse évidemment à penser que c'est aussitôt après la capitulation, donc en 294, qu'il a été désigné pour la première fois, et dans une fonction où la littération était en principe exclue. Un cas semblable, me semble-t-il, est révélé par un décret trouvé dans la forteresse de Ramnon. On en verra quelques éléments tout à l'heure. On y apprend qu'un certain Adeimantos fut désigné par le roi au titre de stratège pour la protection de l'Attique, et cela pour 2 ans, épi duo était. Certes, sans connaître encore tous les éléments de l'identification et de la chronologie que l'inscription peut contenir, car elle n'est pas encore diffusée, il est difficile d'en dire plus sur ce personnage et sa carrière. Mais on va voir dans un instant que la date adoptée provisoirement par les chercheurs dans le sillage du futur éditeur, soit l'année 305-4, paraît à l'examen très peu probable et que tout invite au contraire à mettre justement le décret dans cette seconde période de domination des Démétrios, entre 294 et 287, où règne un certain arbitraire et où il y a des interventions, des ingérences très nettes du pouvoir royal sur la désignation et même la durée des mandats. C'est fait exceptionnel. Ce qui est sûr, c'est que le régime politique mis en place par le roi n'était qu'une démocratie de façade. Certes, comme l'écrit Plutarque, chapitre 34, vous avez ce texte sous les yeux, premier alinéa. Après la capitulation, il institua les magistratures qui étaient les plus chères au peuple. Katestesen arcas hai malista prosphileis toi demoi. Une phrase assez curieuse qui doit signifier en gros qu'on en revenait plus ou moins à la constitution en vigueur avant 301. Un indice négatif réside dans le fait que les deux magistratures à caractère financier que j'ai mentionnées tout à l'heure, c'est-à-dire le contrôleur général, l'exetastes, et les trituarchoi, disparaissent. Donc, on en revient à une situation à peu près semblable à la constitution antérieure. On en a une dernière attestation, justement, de ces deux magistratures dans le décret que nous venons de voir pour le courtisan Hérodoros, qui date de 294. Et dans ce décret, chose remarquable, il y a déjà la magistrature traditionnelle du préposé à l'administration générale, à la gestion, le ho epi dioi kesei. Il refait surface à ce moment-là. Alors, c'était peut-être une de ces prosphileis archaïs, ces magistratures qui étaient chères au cœur des Athéniens, si plus tard, encore une fois, a raison dans son résumé, peut-être peut-on penser que le rétablissement aussi du collège des préposés à l'achat du grain, les citonailles, puisque c'est justement au terme d'une période de famine, le siège de 294, ces acheteurs de grains, que songeaient éventuellement ou à quoi peut faire allusion la phrase un peu mystérieuse de Plutarque. En tout cas, on le voit à la fin du siège, Démétrios, avec une grande libéralité, Plutarque le dit, leur offre aux Athéniens affamés 100 000 médimes, des boisseaux de blé, ce qui était un cadeau vraiment royal. Mais, cela dit, il est exclu que sous le roi Démétrios, la démocratie ait pu fonctionner normalement. L'autorité de contrôle manifesta d'emblée sa présence par l'installation d'une garnison en ville même d'Athènes. Cette fois, et non plus seulement au Pirée, donc en bordure de l'Archaios Péribolos, ici, colline magnifiquement située, qui domine outrageusement l'acropole, d'où son intérêt pour les touristes d'y monter, de même que toute la vie publique avec la Pnyx, avec l'Agora dans le lointain, sans parler de la vue superbe qu'on y a vers la côte, vers le baie de Phalère et le Pirée. Donc c'est une mainmise très forte sur la vie politique athénienne qui s'établit en 294. Démétrios aurait pu, à la rigueur, se satisfaire de cette garnison quasi interne, mais Plutarque rapporte, dans ce même passage, si on y vient ici, paragraphe chapitre 34-5, que un certain Dromocleides de Sphétos fit, lors de l'assemblée solennelle, en présence du roi Démétrios, fit voter par l'assemblée une proposition constituant à mettre volontairement le Pirée avec la forteresse de Munichi à la disposition du roi vainqueur. Donc, on se croyait revenu avec un degré de plus dans l'adulation et la servitude au beau jour du célèbre Stratoclès de Dioméia. D'ailleurs, Plutarque associe ailleurs, dans un autre passage, les deux personnages. Stratoclès, dont je rappelle qu'il disparaît à ce moment-là. Il a un dernier décret connu de lui en 292, décret dont vous n'avez ici qu'un extrait, qui est intéressant par le fait qu'il est justement daté de l'archonta d'Olympiodor, cet archonte placé par Démétrios. Et vous voyez que la mention de Stratoclès figure encore en bonne place, mais c'est le dernier pour un personnage politique assez important, en fin de carrière, lui aussi, Philippides de Paiania, à ne pas confondre avec l'autre Philippides dont nous avons vu le décret lors d'un précédent séminaire, Philippides de Képhalè, lui qui est toujours en exil à ce moment-là, auprès du roi Lysimaque. Quoique ce Dromocleides de Sphétos, donc l'homme qui propose, qui offre le Pirée à Démétrios, ne soit pas encore connu, à ma connaissance en tout cas, par l'épigraphie, ce qui d'ailleurs ne surprend pas trop car les décrets ne sont pas très nombreux pour cette époque de tutelle macédonienne. On peut penser qu'il fut fort actif, en réalité, pendant tout ce laps de temps, à partir de 294. En tout cas, il est l'auteur d'un décret si remarquable d'un décret si remarquable par son adulation, que Plutarque l'a cité, on a cité de large extrait, en tout cas tout le dispositif, au chapitre 13, donc bien antérieurement de sa vie de Démétrios. Pour en faire un exemple même des actes cultuels rendus à Démétrios. Et on voit que c'est sur proposition de Dromocleides qui suggère au peuple de consulter Démétrios tel un dieu oraculaire sur la manière la plus appropriée de remettre en place les offrandes, avec la formule « ten apokatastasin ton anathematon ». Un tel document est rangé par le biographe avec tous les honneurs octroyés aux Étrigonines, hein, dans des chapitres généraux au début de la biographie, à partir de 307, ne saurait guère, pour peu qu'on y réfléchisse, remonter aussi haut. De fait, justement, dans un très beau chapitre de ces Untersuchungen de 1979, Habicht a su parfaitement élucider, me semble-t-il, tous les tenants et aboutissants de cette affaire, de cette consultation oraculaire, quasiment, en montrant que cette procédure, à première vue énigmatique, était à placer aux alentours de 291, à une époque de grande tension entre le roi Démétrios et les Étoliens, autour du sanctuaire de Delphes, et que les offrandes à rétablir, la apokatastasis, étaient des boucliers jadis consacrés sur le temple de Delphes par les Athéniens depuis les guerres médiques, et que les Athéniens souhaitaient voir replacés, remis à leur emplacement primitif, d'où ils avaient été visiblement ôtés. On pourra se reporter à la synthèse de Habicht en français de 2000 pour avoir toutes les précisions souhaitables sur cette affaire complexe où Dromocleides de Sphétos joua visiblement le même rôle de conseiller adulateur de Démétrios. Ce que je voudrais mettre en évidence ici, c'est d'abord qu'il y eut effectivement, vers la fin des années 290, une guerre ouverte aux frontières de l'Attique, avant que Démétrios, comme nous l'enseigne Plutarque également, et pu mater la révolte de la grande cité de Thèbes, soutenue justement par cette confédération étolienne, et qu'il eut finalement conclu lui-même un traité d'alliance avec les Étoliens. Un traité d'alliance qui doit dater de 299 et dont on a aujourd'hui, par miracle, le texte publié avec beaucoup de diligence il y a quelques années par notre jeune collègue François Lefebvre, un document de Delphes, mais que je ne commente pas ici. Il est probable qu'on aura à l'avenir d'autres documents qui font mention de la guerre aux portes de l'Attique dans ces années-là. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est le déploiement inouï à Athènes, dans ces années-là justement, d'actes cultuels en l'honneur du roi, considéré comme l'égal d'un dieu, prenant la première place dans le panthéon athénien, se voyant attribuer une fête particulière, les Démétrias, qui sont attestées précisément en l'an 292, un mois de l'année Démétrione, qui n'est pas attesté épigraphiquement, mais qui pourrait l'être ou qui n'a que duré que de façon éphémère, un jour du mois, Démétrias. Tout cela, c'est Plutarque qui nous en informe un peu en vrac, dans les chapitres 12 et 13. En son honneur, on compose même un hymne dit ithyphalique, dont vous avez ici un extrait qui nous a été conservé, par l'historien Douris de Samos à travers le sophiste athénée de Naucratiste à l'époque impériale. Poème célèbre en raison même de son caractère hyperbolique, voire blasphématoire pour les autres dieux et déesses, puisque Démétrios y est mis sur le même rang que Déméter, compagnon de Déméter, compagnon en tant que nouveau Dionysos, et il est célébré comme une divinité infiniment plus efficace que toutes les figures du Panthéon, justement. Toi, en revanche, vous voyez, le sud des parentes romaines, nous, toi, en revanche, nous te voyons là, vivant, et non pas en bois, hein, et en pierre, ou xulinon, ou te litinon, à l'étinon, un vrai dieu qu'on peut toucher quasiment du doigt. Or, il me semble qu'un témoignage supplémentaire, certes plus modeste, assurément, sur le culte de Démétrios, divinisé à cette époque, est passé inaperçu en raison la mutilation du document et aussi d'une datation au départ gravement erronée, rectifiée il y a peu seulement. C'est le décret, ou un décret plutôt, d'une association religieuse dans le Dème d'Éleusis, non pas du Dème d'Éleusis, document qui avait été publié en 1968 par l'Américain Eugene Vanderpool, grand connaisseur de la campagne attique et des dèmes de l'Attique. Bien que l'archonte mentionné là, Epi Aristionios Archontos, fût inconnu et donc, a priori, non attribuable à une époque précise, la chronologie du document paraissait néanmoins ressortir assez clairement du fait qu'il y avait une place pour cet archonte flottant, en quelque sorte, dans les années 230, aux alentours de 235, à l'époque de ce que l'on appelle la guerre démétriaque, quand le roi Démétrios II, donc le petit-fils de notre Démétrios Polyurg VII, mena une guerre assez célèbre contre la coalition des Achéens et des Étoliens. Une guerre qui menaça très directement l'Attique, on aura l'occasion d'en reparler l'année prochaine, toujours aux mains des Macédoniens à cette époque. Le décret, effectivement, faisait mention d'un état de guerre, on voyait, diaton polémon, ça paraissait donc convenir éventuellement à cette période. Dès 1969, le texte très incomplet de ce décret, puisqu'il manque toute la partie gauche, comme vous voyez dans la présentation qui elle-même est à gauche, ce décret a été amélioré sensiblement par Louis Robert. Certes, ce très grand épigraphiste n'a pas contesté la datation du premier éditeur, la trouvant au contraire fort acceptable, fort séduisante et pratiquement assurée. En revanche, il a fait progresser l'interprétation du document, parvenant, comme vous le voyez, il y a un contraste assez net, un texte que nous présentons ici, qui n'est reproduit nulle part, et ce progrès n'est d'ailleurs parfois encore aujourd'hui ignoré. Il en ressort qu'on a affaire à un thias, exactement un neranos, le mot a été restitué plusieurs reprises et avec beaucoup de sûreté ici par Louis Robert, c'est-à-dire une association un peu particulière, une espèce de mutuelle à laquelle on adhérait à titre individuel, auprès de laquelle on pouvait faire des emprunts gérés par un trésorier. C'est justement le tamias de cette association, la restitution tamias paraît aussi assurée, qui est honoré par le décret. Et son mérite essentiel a été de préserver, dia sozain, de maintenir dans le salut l'existence du thias, de cette association, dans une période difficile, justement, une période de guerre. Les membres de l'Eranos étaient visiblement des métèques, des étrangers domiciliés, cela ressort de leur onomastique assez clairement. Or, ces gens frayaient avec les soldats de la garnison. Il y a un apport très important de Robert qui a su voir que le terme « décadarcaï », ici, metaton décadarcon, il fait des sacrifices avec les décadarques. Ne pouvait en aucune façon désigner les petits fonctionnaires qui auraient qui auraient officié à l'intérieur même de l'association, mais que c'était des officiers, que le terme même de décadarchès était typique du vocabulaire militaire macédonien. Donc, on peut dire que les gens du Thias, et notamment ce Tamias, qui s'appelle Paidikos, collaborait avec les caporaux, hein, pourrait-on dire, chefs des squads, et qu'il y avait une certaine symbiose entre eux, et tu es metaton décadarchos. Mais voilà, quand 1997, et surtout dans un livre qui a paru ensuite en 2003, Athens and Macedon, Stephen Tracy, spécialiste, comme l'a rappelé notre collègue Graham Oliver, de la gravure des décrets attiques, on a eu un séminaire là-dessus, a montré que le document était de la même main que un décret qu'il avait étudié et qui est en quelque sorte la pierre éponyme d'un graveur, d'une main de graveur qu'il a identifié, un graveur IG de 1262. Il s'est aperçu, après coup, trouvant l'estampage du décret d'Eleusis à l'école américaine, que, je ne peux pas entrer dans le détail ici, mais la chose me semble sûre, que cette gravure du décret d'Eleusis était exactement la même main que celle de plusieurs pierres, dont celle-ci, datable aux alentours de l'an 300, entre 310 et 290. Il fallait donc, à la mesure où on accepte cette conclusion, et je crois qu'on peut l'accepter, il fallait donc trouver une toute autre place pour l'archonte Aristion. De fait, si la liste de ces magistrats est relativement bien établie, on l'a vu, jusque à Olympiodore, à peu près en 292, ensuite, il y a un flottement. Je prends ce tableau récent, on va jusqu'à 292, puis ensuite, on voit que le spécialiste dit « order unclear », même le nom des archontes, là, dans cette période, est flou. On peut donc, pour tenir compte de la datation par cette main de graveur, et sans tenir compte d'une proposition qui ne me semble pas acceptable de placer cet archonte Aristion dès 296, en modifiant l'ordre tel qu'il nous a été donné et qui paraît sûr, en tout cas vraisemblable, de placer Aristion désormais vers 291 ou 90, voire 289. Dès lors, il paraît clair que le conflit Diaton Polemon, hein, qui figure dans le décret de l'association d'Eleusis, qui est même la cause des ennuis de cette association, n'a rien à voir avec la guerre des Métriaques des années 230. C'est une autre guerre qu'on pourrait appeler, à certains égards, elle aussi des Métriaques, puisqu'elle touche un roi des Métrios, mais le Poliorcète cette fois, contre les Étolo-Béotiens aux portes de l'Attique. Car il ne faut pas oublier que Eleusis est au point de départ de la route qui va vers la Béotie qui est à ce moment-là en pleine ébullition avec la révolte de Thèbes, et au-delà vers la Phocide, vers Delphes et les Étoliens, d'où aussi la présence d'une garnison, une garnison dont on aura l'occasion de reparler à Eleusis. Mais reste un petit problème qui n'a pas été résolu, me semble-t-il, si je reviens au décret. Depuis une dizaine d'années, depuis qu'on a modifié si radicalement la date du document. C'est le nom de la divinité à restituer dans la lacune de la ligne 10. Vous voyez qu'il y a plusieurs divinités auxquelles on sacrifie. Zeus, Sauter, et Igy, qui sont bien conservés. Zeus, Sauter est parfaitement en situation. La note Robert rappelle que c'est un dieu du salut, c'est un dieu de la guerre, tout à fait normalement. Il y a aussi, chose intéressante, Hugieia, la personnification de la santé, le plus souvent associée à Asclépios. Et c'est le nom d'Asclépios que l'épigraphiste français Jean Pouilloux a proposé en 1969 de mettre ici. Mais je crois que cette restitution n'est pas possible. Comment admettre que Asclépios ait été placé avant Zeus et séparé de sa compagne habituelle, la santé Hygie. Cette restitution n'a pas été de fait retenue. De son côté, Louis Robert a proposé d'écrire Tété Démétrie. Vous le voyez, la restitution est là, dans la version de droite. Tété Démétrie, Kaito di, etc. Cette formulation convient à disposition Stoïkédon. Déméter, oui, Déméter, tout naturellement, qui aurait occupé la première place, puisque le Thiaz paraît avoir eu son domicile, son siège, à Eleusis. Mais attention, pas dans le sanctuaire d'Eleusis. Cette inscription a même été écartée aujourd'hui du corpus des inscriptions d'Eleusis, car on ne sait en fait pas très bien d'où elle vient. Elle a été remployée. Elle n'est pas une pierre du sanctuaire d'Eleusis. Alors, c'est une restitution certes plus séduisante, mais on observera toutefois que, encore une fois, la provenance de la stèle n'est pas assurée. Et surtout, il est un peu gênant de constater que les thiazotes, leur damias avec les décadarques, auraient fait leur dédicace à Déméter seul, car dans le sanctuaire d'Eleusis, Déméter est toujours associé à sa fille. Hein. Jamais sans ma fille, dirait Déméter. Les deux sont ensemble. Ce sont les deux déesses. Alors, l'absence de Corée à Eleusis, vraiment, frappe est presque, en tout cas, très, très insolite. Alors, on peut se demander, donc, aujourd'hui, dans la mesure où le changement de chronologie bouleverse complètement, on peut dire, le contexte même social et religieux, d'abord, s'il ne faut pas introduire dans cet espace le nom même de Démétrios, hein, qui serait en première position le plus concret de tous les dieux pour les Athéniens de ces années-là, très particulièrement, des années 290, et écrire donc Tau Démétrio, pas de roi, parce que roi affaiblirait la restitution. C'est Démétrios qui est comme Zeus, Tau Démétrio, Kai, et c'est tout à fait aussi conforme, bien entendu, au Stoïkédon, car le T qui avait été introduit par Louis Robert ici était d'une certaine façon une cheville. Tau Démétrio, Kai, Tau Démétrios, avant Zeus. Ça paraît inouï, mais c'est conforme au fameux Péan et à l'hymne ithyphalique. Il est le premier de tous les dieux. Dans la foulée, on ajoutera un autre document au dossier de cette heptaétie, si l'on peut dire, de ces sept années de domination de Démétrios sur Athènes. C'est le décret, encore partiellement inédit, et évidemment, ça rend les choses un peu problématiques. Je reproduis ici le commentaire en grec de notre collègue ami Vassilios Petrakos, qui doit publier, et qui est d'abord l'inventeur de ce document, qui doit encore le publier. Il en a cité quelques passages essentiels, notamment les épiduo-étés de ce magistrat, stratège qui est désigné, c'est ça qui est capital, désigné par le roi Démétrios comme stratège pour la sécurité du territoire. Et selon lui, donc, ce document daterait de 306 ou entre 306 et 304. Mais les raisons alléguées en faveur de cette date me paraît finalement assez faibles et il me paraît totalement inimaginable que avant 304 et même avant 301, le roi Démétrios ait pu s'immiscer dans les affaires athéniennes au point de désigner un stratège. Ça, c'est totalement insolite, totalement surprenant pour cette période, alors qu'au contraire, cette intervention est conforme à ce que l'on constate par ailleurs après la capitulation d'Athènes en 294. C'est le cas, encore une fois, d'Olympiodore. Et dès lors, on peut se demander si le personnage qui est établi comme stratège et qui, à qui on est établi pour 2 ans, chose inouïe, par le roi, cet Adeimantos, ne serait autre, en fin de compte, que le célèbre Adeimantos de Lampsaque, dont on a étudié en séminaire, qui est certes un étranger, mais un étranger qui a à coup sûr reçu la citoyenneté athénienne et qui est toujours vivant, en tout cas à cette époque, on le voit à travers un épisode de la vie du philosophe Théophraste, puisque Théophraste, on s'en souvient, faisant son testament, on confie une copie à un personnage très important qui est Adeimantos, justement. Et c'est aussi dans cette époque-là qu'on pourrait trouver bien des parallèles, en dehors d'Athènes, en Béotie, en Eubée, d'ingérence de Démétrios sur la désignation des plus hauts magistrats. C'est donc conforme, on peut dire, au style de l'époque, époque que à Athènes on caractérisera plus tard, juste après, comme oligarchia. Hein, comme oligarchia, c'est très clair dans les décrets qui ont été pris pour les grands bienfaiteurs dans les années 280. On leur fait compliment, on les loue pour avoir, et notamment l'exilé Démocharès de Leuconoé, on le félicite d'avoir seul des Athéniens, peut-être l'éloge là est un peu hyperbolique, d'être seul, à n'avoir pas participé à aucune forme d'oligarchie, c'est-à-dire s'être tenu à l'écart de toute magistrature, en quelque sorte suspecte, puisqu'elles étaient plus ou moins télécommandées par le roi Démétrios. Mais certains de ces hommes politiques, compromis d'une certaine manière par leur présence à Athènes dans les années 294-287, vont avoir une occasion de se racheter, si dans la mesure où ils le voulaient, en prenant une part active au soulèvement de 287 contre ce roi Démétrios. Et ce sera le cas notamment d'Olympiodoros lui-même. Pourtant, Dieu sait, s'il était compromis par son double archonta, il sera le meneur ou un des meneurs du soulèvement. Ce soulèvement, pour conclure, ce soulèvement est éclairé d'une vive lumière, je le disais au départ, par le décret pour Callias de Sphétos, trouvé en 1971 sur, disons, remployé sur l'agora d'Athènes, et qui devait se dresser, le texte le dit, sur l'agora, un emplacement qui n'est pas précisé, mais aux côtés, et retenez cela pour la suite, aux côtés même de la statue qu'on lui érige dans le décret en son honneur une vingtaine d'années après. Ce document est donc connu depuis 1978 par la publication de l'Américain Chion, Leslie Chion, dans un supplément d'Hesperia, et qui, ce document qui a rendu caduque, on peut dire, d'un seul coup, tous les exposés antérieurs sur cet événement, à commencer par l'exposé classique de Ferguson dans son Hellenistic Athens de 1911. On pouvait naturellement se faire déjà une idée. J'esquisse la chose, une idée de cet événement grâce au témoignage notamment de Plutarque dans sa vie de Démétrios, sa vie de Pyrrhos, qui permettait de situer l'affaire dans une conjoncture politique de grande ampleur. Le soulèvement d'Athènes était clairement placé en relation avec les revers subis par Démétrios dans son propre royaume, acculé, attaqué de tous côtés par Lysimaque de Thrace, par Pyrrhos d'Épire et aussi sur mer par Ptolémée, se voyait abandonné, il est dans une situation de complète déréliction, et même ses partisans à Athènes, comme Olympiodore, l'abandonnent, Olympiodore qui prend la tête du mouvement et chasse de la garnison du Mouséion même. Quelques décrets, que nous verrons aussi, connus depuis longtemps, permettaient de préciser ce tableau par des allusions assez claires à l'affaire du Mouséion, au combat pour la liberté. Il y avait le grand décret aussi pour le propre frère de Callias, Phaedros de Sphétos, alors que Callias était encore tout à fait dans l'ombre, presque inconnu, et qui faisait allusion, de manière un petit peu moins claire, à des événements importants, à des temps très difficiles, Peristanton, Teipolei, Kairon, Duscolon, hein, une phrase qui a une terrible actualité aujourd'hui. Mais il restait bien des zones d'ombre, notamment sur la chronologie. Ferguson lui-même datait cet événement de 289, il était dans le flou. Le progrès dans l'établissement de la chronologie des archontes a permis de voir que l'événement devait être peu antérieur à 286, et c'est pourquoi, dans la publication, dont vous avez le titre sous les yeux, la révolte d'Athènes est placée en 286. Mais on verra qu'en réalité, comme l'ont montré divers savants et précisé plus tard, cette révolte date de l'année précédente, 287. Cela ne fait, je crois, plus aucun doute. Donc c'est un pivot absolument capital de l'histoire hellénistique d'Athènes, mais au-delà d'Athènes aussi. Je vous remercie.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.